Donc je vais donner le message juste avant la scène en même temps, donc ça servira aussi d'introduction à la scène. Je vous avais dit dimanche dernier, après ce beau culte qu'on a eu, hein, ce beau témoignage de Samuel, il circule un petit peu, mes filles l'ont écouté aussi, je le disais tout à l'heure, et d'autres l'ont entendu aussi, et voilà, vraiment, le Seigneur est bon de nous avoir offert des témoignages de résurrection. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont suivre, d'accord? Il y en a d'autres qui vont suivre. Et donc, deux jours avant Pâques, la semaine dernière, c'était vendredi matin, le vendredi saint pour les catholiques, j'ai vraiment reçu, à travers le texte que je lis chaque jour dans Pensées précieuses, vraiment, je trouve que c'est toujours à propos, bien inspiré. Et la parole du jour, c'était la parole du bon larron sur la croix. Souviens-toi de moi, hein, quand tu viendras dans ton règne. Et puis, je me suis mis à prendre cette conversation qui s'est passée là sur la croix. Ça s'est pas passé dans des fauteuils, hein. Ils étaient pas dans un fauteuil, tous les trois là. Ils étaient tous les trois crucifiés. Ils se sont parlé. C'est quand même un peu particulier comme conversation, hein. Et Dieu m'a parlé à travers cette conversation, à travers la réaction des deux brigands, diamétralement opposés. Et Dieu m'a montré deux visions de Dieu à travers ces deux brigands. Deux visions de Dieu et de son règne. Alors si vous voulez bien, on va prendre donc ce texte dans Luc. Luc au chapitre 23, d'accord? Et au verset 39. D'accord, je vais pas trop vite. Luc 23. Chapitre 23, au verset 39 à 43. Donc encore une fois, c'est pas une conversation dans un fauteuil. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémé contre Jésus. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, que c'est beau! C'est émouvant. Ces deux brigands, c'est vraiment deux visions de Dieu. Et on rencontre ces deux visions, mais on rencontre surtout la première vision. Quelle est cette première vision de ce premier brigand? Comment il voit Dieu? Comment il voit son règne? J'ai relevé, Dieu m'a montré cinq caractéristiques de sa vision de Dieu et de son règne. La première, Dieu est responsable de tout, y compris de mes malheurs. Il est injuste. Vous n'entendez pas souvent cette vision de Dieu autour de vous? Je l'entends de mes collègues de travail. Quand il leur arrive une tuile, pourtant j'ai rien fait. Voilà, Dieu responsable de tout, y compris de mes malheurs. Dieu est responsable de mes ennuis familiaux. Dieu est responsable de mes problèmes financiers, de mes problèmes de santé. de mes problèmes au travail. Deuxième caractéristique, dans ce cri du brigand, allez, sauve-toi et sauve-moi. Dieu doit servir mes intérêts. Dieu doit servir mes intérêts. Or, vous le savez, mes intérêts sont en étroite relation avec mes priorités que je place dans ma vie. Et si mes priorités sont mal placées, mes intérêts le sont aussi. Et Dieu, dans cette vision-là, doit s'y soumettre. Si mes priorités sont égoïstes, Dieu doit se soumettre à mes intérêts égoïstes. D'accord ? Si j'ai par exemple un désir de vengeance, Dieu doit satisfaire, s'il est Dieu, doit satisfaire mon désir de vengeance. Dans le cas de ce brigand, j'imagine très bien que si Jésus avait répondu à sa demande, qu'il serait descendu de la croix, qu'il l'aurait descendu de la croix, j'imagine très bien ce brigand dire, allez, massacre tous ces Romains-là, allez, vas-y, massacre-les, avec tout le mal qu'ils m'ont fait. Dieu responsable de tout, 1. Dieu doit servir mes intérêts, 2. 3. Je n'ai pas besoin de me repentir. Et on voit à travers l'attitude de ce brigand aucun remords, aucune culpabilité, enfin aucun désir, aucun questionnement de se dire « peut-être quand même ce que j'ai fait c'était pas terrible quoi ». Rien. Je n'ai pas besoin de me repentir. Et je partageais cette méditation avec Annette le week-end dernier. Et puis Annette m'a fait référence au séminaire qui s'est passé une semaine avant ici, où il y avait, la salle était pleine d'ailleurs, c'était avec Mori Kouadze, sur le thème « Le mystère de l'iniquité ». L'iniquité, ça veut dire le mal. Hein ? Le mystère du mal qui va aller en s'intensifiant, si l'on croit les paroles de Jésus même, hein, qui dit dans Matthieu, si vous pouvez noter la référence, mais il le dit dans Matthieu 23, verset 12, il dit « L'iniquité prévaudra et l'amour de plusieurs sera refroidi. » Et l'oratrice disait que la conscience de beaucoup serait de plus en plus étouffée. C'est-à-dire, beaucoup manqueraient ainsi de conviction au sujet du bien et au sujet du mal. Il y aurait de plus en plus de confusion. Il y a cette confusion, cette conscience du bien et du mal étouffée, hein, s'ajoute une autre caractéristique de cette iniquité qui prévaudra, le manque de respect. On est stupéfait aujourd'hui du déferlement d'irrespect. On ne craint pas d'être irrespectueux vis-à-vis des cheveux gris, vis-à-vis des représentants de l'ordre, des autorités. On se moque de tout. Et même des gens bien pensants le disent. Alors pas besoin de m'étendre là-dessus, donc on le voit tous les jours. Donc ce brigand, dans la douleur de son châtiment, juste qui tombe sur lui, refuse de se repentir. Et au contraire, il injurie Dieu. Il injurie Dieu. Mes amis, c'est vraiment dramatique ce type de situation. Et dans le livre de l'Apocalypse, hein, qui annonce des temps difficiles, qui arrivent des temps de jugement, hein, des événements douloureux, hein, l'Apocalypse, il est dit que beaucoup seront comme ce brigand. et refuseront de se repentir. Apocalypse chapitre 9, verset 20 et verset 21, il est dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. » Verset 21. « Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » C'est terrible d'entendre ça. Mais nous allons être imprégnés par cet esprit-là. Cet esprit de mécontentement perpétuel, de plainte, de rébellion. Comment on va tenir là, hein? Quatrième caractéristique de cette vision de Dieu, pour ce brigand qui est là, mais la croix du Christ, celui qui se dit le roi des Juifs, puisque c'est marqué le roi juif, n'a absolument pas de sens. Elle n'est pas nécessaire. Pourquoi faut-il qu'il aille mourir sur la croix? Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Mais pourquoi? C'est incompréhensible. Ce brigand est complètement dérouté par ce qui se passe. Comment le roi des Juifs peut-il se laisser mourir et ne rien faire, alors qu'il a montré tant de signes de sa puissance? Souvenons-nous, Paul, ce qu'il a dit. La croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais il dit par ailleurs aussi, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Ouais, ça, c'est un de tes versets préférés. Je le sais. La croix n'a pas de sens. Alors ce brigand est complètement aveugle aussi sur la notion d'autorité. Pour lui, la force est le seul signe d'autorité. Il est le signe par excellence pour manifester l'autorité authentique. Il est complètement aveugle sur la notion d'autorité aussi. Alors voyons le deuxième brigand maintenant. Celui qui a dit, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Celui-ci n'a rien fait de mal et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Sa vision de Dieu à lui, Dieu ne connaît pas le mal. Il est juste. Il est saint. Tout le contraire de l'autre brigand. Deuxième caractéristique, parce qu'il est, il mérite le plus grand respect. Dieu mérite le plus grand respect. Et il est indigné par le comportement de son compagnon. Indigné par les injures qui sont adressées à Jésus. Troisième caractéristique de cette vision de Dieu face à lui. J'ai souvent besoin de me repentir. Et on sent bien qu'il l'est dans la repentance. C'est justice qui nous arrive, il reconnaît ses forfaits. Et voilà, bien sûr, il ne fait pas un long discours théologique qui montre qu'il est dans la repentance, mais ça, c'est que ça paraît évident. Face à la sainteté de Dieu, nous devrions souvent être en situation de repentance. Souvent. Pas seulement le jour de notre conversion. Quatrième caractéristique, indéniablement pour ce brigand, la croix a un sens. Elle doit être nécessaire. Et elle ne signifie pas que Dieu a perdu le contrôle. Et ce brigand qu'on a appelé le bon larron, il a des propos étonnants qui témoignent de sa foi. Vous savez, il y a un homme dont Jésus parle et qui loue sa foi, c'est un centenier qui a eu son fils guéri, vous vous souvenez? Et Jésus a dit, jamais j'ai vu une autre foi. Mais là, je me demande si cette foi-là ne dépasse pas encore. Vous vous rendez compte de ce qui se passe là? Il est sur la croix, il est en train de mourir. Il voit Jésus, le roi des Juifs, en train de mourir. Et il le croit et il déclare que son règne vient. Quand tu vas venir dans ton règne. Oui? Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, d'accord. C'est vrai. Bon, un détail important. Merci, Jacques. Moi, c'est cette foi, elle m'étonne. Je me dis, mais c'est remarquable. Il voit Jésus en train de mourir. Il déclare qu'il va régner. C'est incroyable. Il a foi que Jésus vient dans son règne. Je ne sais pas d'où vient ce brigand. Est-ce qu'il a eu un peu d'instruction? On ne sait même pas. Est-ce qu'il a rencontré Jésus? Peut-être pas. Ou s'il l'a rencontré peut-être juste un tout petit peu. Une brève rencontre peut-être. Et il n'est pas dérouté parce que subit Jésus, le roi des Juifs. Oui, quatrième caractéristique, la croix a un sens. Cinquième caractéristique, la force n'est pas le seul signe d'autorité, mais aussi le don de sa vie. Dans cet esprit serviteur humble. Et on peut rajouter une sixième caractéristique à sa vision de Dieu. Sa vision, c'est la vision d'un Dieu miséricordieux. Quand on lui apporte nos zones d'ombre, son pardon est total et immédiat. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Total et immédiat. Ça aussi, ça, la foi dans le pardon de Dieu, magnifique. Dans la réponse du Christ, il n'y a pas d'hésitation, pas de doute possible sur l'offre d'un pardon total et immédiat. Voilà, j'en arrive à ma conclusion déjà. Et on va prendre la scène ensemble. Et ma conclusion va servir d'introduction à la scène. Je vais citer un premier passage de la Bible dans Jacques 5, 12 qui dit, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais voilà, c'est ce qui m'est venu pour la scène. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Chers amis, est-ce qu'on est totalement en phase avec la vision de ce deuxième brigand? Ne serait-ce que, où sommes-nous influencé, ne serait-ce qu'un tout petit peu par la vision du premier, hein? Le compromis n'est pas possible entre ces deux. Le compromis n'est pas possible. Ou nous choisissons l'une de ces visions, ou nous choisissons l'autre. Alors qu'en prenant ce pain et ce vin, dans quelques instants, qu'on puisse le faire, je dirais, dans un non ferme à cette première vision. Non, le Dieu auquel nous croyons n'est pas un Dieu injuste. D'accord? Est-ce que maintenant, le pain que je vais prendre, est-ce que c'est un non ferme à cette vision de Dieu-là? Dieu n'est pas un Dieu injuste. Non, il n'est pas un Dieu au service de mon ego. Non, il n'est pas un Dieu qui perd le contrôle. La pression de l'esprit du siècle présent, où l'iniquité prévaut, va devenir de plus en plus forte pour nous pousser à la plainte plutôt qu'à la reconnaissance. Pour nous pousser, si possible, à la rébellion et à l'irrespect. Il nous faut tenir ferme. Et cela m'amène au deuxième passage biblique pour cette scène, c'est dans Luc, chapitre 9, verset 23. Vous avez remarqué que ce qui est au centre de nos propos, c'est des hommes crucifiés, c'est la croix. Eh bien, c'est dans ma conclusion aussi. La croix est au centre, là, de notre propos ce matin. Je me souviens que quand on a démarré cette église, je sentais le Saint-Esprit qui vous dit, Jean-Luc, il faut que la prédication de la croix soit au centre dans cette église. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça me parle parce qu'il y a eu un petit épisode à la maison qui nous a interpellés. Vous savez, Dieu parle par des petits épisodes, par des circonstances qu'on traverse. C'était tellement particulier qu'Annette, elle disait, oulala, Dieu veut certainement nous dire quelque chose à travers cette circonstance. Toute bête, toute simple, mais on vient de changer certaines menuiseries chez nous, dans notre maison. Notamment, dans notre salle à manger, il y a une porte-fenêtre avec deux petites fenêtres sur les côtés. On a changé ça pour mettre en double vitrage, pour faire une économie d'énergie. Et pour décorer, Annette avait bien dit à l'artisan, mettez des petites baguettes, on pourrait dire, à l'intérieur des carreaux, là, pour décorer un peu. Et c'est des baguettes en chrome doré. Pardon ? Cuivre ? C'est en cuivre. Je te fais confiance. Tu as certainement raison, c'est certainement moi qui ai tort, là, oui. Je ne m'y connais pas dans ce domaine. D'accord. Et donc, il y a sur les deux petits carreaux sur le côté, deux petites baguettes comme ça. Et puis dans le carreau central, c'est plutôt un croisillon. Deux croisillons, pardon même. Et puis il s'avère que quand c'était installé, dans le carreau central, notamment les baguettes horizontales n'étaient pas alignées avec les baguettes des deux carreaux sur le côté. Voilà. C'était pas aligné. Voilà, bon. Alors, c'est même le patron, quand il est passé voir ça, il dit non, faut pas laisser ça comme ça, on va le changer, vous inquiétez pas. Et alors, ça fait déjà 3-4 semaines que les ouvriers ont travaillé, on n'a toujours pas ce carreau changé, parce qu'une première fois, en le déplaçant, ils l'ont fendu. Une deuxième fois, Annette était toute fière de dire, ça y est, je l'ai pour Pâques, c'était avant Pâques. Et voilà, en l'installant, le patron, il remarque, ben non, c'est pas encore ça, les cotes sont pas bonnes, c'est toujours pas aligné. Bon. Et puis le soir, Annette, elle dit, mais Dieu veut certainement nous dire quelque chose. Et c'est tout simple. Ça faisait vraiment ce carreau central, la croix, qui n'était pas alignée avec le reste. Et ce que le Seigneur voulait nous dire simplement, veillez à ce que la croix soit au centre, bien alignée dans votre vie. La croix au centre. Et ça doit être de l'importance, puisque Jésus nous dit que chacun prenne sa croix le jour de votre conversion. Après, vous êtes tranquille, c'est fini. Hein. Non. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire, porter sa croix? Parce qu'on peut entendre toutes sortes de choses. Certains disent, j'ai un enfant handicapé, c'est ma croix. Vous voyez, on peut entendre toutes sortes de choses. Donc, il s'agit d'aller dans le sens biblique. Porter sa croix. Alors, il y a un lien forcément avec le renoncement à soi-même. Si quelqu'un ne renonce pas à soi-même et ne porte pas sa croix, donc il y a un lien, c'est clair, avec le renoncement à soi-même. Ça veut pas dire renoncer à s'aimer. Ça veut pas dire ça. Aime-toi toi-même et aime ton prochain comme toi-même, d'accord? Ça veut dire que je dis non à une vie où mon ego est au centre. Je dis non à une vie où mon ego est au centre. Ce n'est plus moi qui vis, a dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce qu'on a dit le jour de notre conversion, n'est-ce pas? Mais il faut le dire tous les jours. Est-ce que l'ego est définitivement vaincu? L'ego, il y a besoin de mourir. Le Saint-Esprit a besoin de nous rappeler constamment, comme dirait Watchman Nee, que notre ego a été crucifié à la croix. Il ne faut pas qu'il domine, il ne faut pas qu'il domine. D'accord? Il faut l'œuvre du Saint-Esprit, jour après jour. C'est l'œuvre de sanctification. Et j'entendais, là toujours dans une réunion de prière vendredi soir, où on était vraiment cette voix du Seigneur dire « Est-ce que tu es d'accord pour que je poursuive en toi mon œuvre de sanctification, jour après jour ?» Vous voyez, on peut être érudit dans la Bible, connaître des belles théories, avoir des dons, des machins, mais si on passe à côté de ça, on passe à côté de l'essentiel. On est complètement passé à côté. La croix au centre. Je vous dis ma conviction que l'unité entre nous nous ne pouvons pas l'avoir sans que la croix soit au centre. Notre vie est l'enjeu d'un combat entre l'Esprit Saint, d'un côté, qui cherche à faire son œuvre de sanctification en nous, et l'esprit du siècle, influencé par Satan, qui cherche à faire revivre notre ego et à le remettre sur le trône de notre vie. Oui, le Seigneur nous dit, est-ce qu'on veut bien entendre sa voix? Laisse-moi poursuivre en toi mon œuvre de sanctification. Parce que ta destinée, c'est d'être cette épouse resplendissante, sans rides, glorieuse la beauté du Christ. Porter sa croix, c'est dire jour après jour, oui, Seigneur, j'accepte que tu poursuives ton œuvre en moi. C'est un oui ferme. Et j'ai regardé le sens du mot croix dans ma Bible online, le sens premier. Et j'ai trouvé ça. Placer, poser, tenir en place, ordonner de se tenir, rendre ferme, établir, garder intact, se tenir devant, debout, immobile, tenir ferme, maintenir, subsister, continuer, être d'un esprit constant, la qualité de celui qui n'hésite pas et n'abandonne pas. Ah, j'ai trouvé très édifiant cette définition. Un peu comme le pieu solide, voilà, porter sa croix, c'est en fait un oui ferme. Et vous savez, même les plus fidèles des serviteurs sont tentés d'abandonner, quelquefois. Sont tentés, dans cette soirée, j'étais très surpris de quelqu'un d'une sœur que je voyais comme quelqu'un de très stable, disait, mais je suis tenté d'abandonner, je suis tenté de tout laisser tomber. C'est ce oui ferme, face à la pression autour de nous. Non, je reste fidèle à Jésus. Oui, je dis oui à son œuvre de sanctification en moi. Il n'y a pas longtemps, une parole m'a été donnée, et les premiers mots, c'était « Tiens bon, Jean-Luc, tiens bon. » Voilà. Chers amis, laissons-nous inspirer par cette définition de porter sa croix, par cette invitation à porter sa croix, par l'attitude de ce brigand à côté de Jésus, pour dire un oui ferme à son chemin de sanctification en nous, en se souvenant que si, bien sûr, on prend conscience pendant qu'on prend la scène de zone d'ombre en nous, qu'on les confesse, qu'on les partage au Seigneur, il nous pardonne. Son pardon est total, immédiat. En nous souvenant qu'il garde le contrôle de toutes choses. En nous souvenant que devant nous, c'est son règne. Est-ce que vous le croyez, ça? Devant vous, devant nous, c'est pas l'incertitude, c'est pas le chaos, c'est le règne de Dieu. Que, en prenant le pain et le vin maintenant, vraiment, ça soit un oui à tout ça. ça soit un oui ferme à Jésus, à cette vision de Dieu, de son règne. Un oui pour porter sa croix, pour dire oui, je me tiens ferme, je tiens bon par ta grâce, Seigneur. Oui, je vais jusqu'au bout. Vous savez, c'était beau vendredi soir, une soirée de prière au Carme, là. Et puis, c'était dans une salle où on voyait une vue sur un jardin magnifique, avec un chemin comme ça, étroit. Tiens, le chemin étroit. Et puis, au bout du chemin étroit, c'était deux chaises longues. Et le Seigneur m'a parlé, il me dit, mais oui, le chemin étroit, c'est peut-être difficile, mais au bout, c'est le repos. C'est le vrai repos. C'est le vrai repos intérieur. Tu cherches le repos, t'en as marre de lutter. Eh ben, c'est ce chemin-là que tu dois suivre. Tiens ferme. Tiens ferme dans ce chemin étroit. C'est le repos au bout. Amen. Je vous propose qu'on prenne un petit moment de silence. Voilà, simplement pour méditer ce qu'on a entendu. Puis ensuite, s'ils veulent bien, le groupe de louanges, de prendre ce chant qu'on avait entendu dimanche dernier, mais je l'ai reçu encore pour aujourd'hui, parce qu'il parle qu'on aille au pied de la croix. C'est tellement en accord avec ce qui vient d'être dit, hein, d'accord? On va prendre ce chant, oui, je viens au pied de ta croix, je viens. Et on va prendre ce pain et ce vin ensuite, comme un oui ferme à lui. Un oui ferme à son règne, un oui ferme à cette vision de Dieu, un oui ferme pour continuer à porter notre croix, un oui ferme à l'œuvre de sanctification en nous. Amen.